Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme aujourd'hui, le film Grizzly Man de Werner Herzog, un documentaire incontournable pour quiconque aime les ours, les documentaires, la folie et tout simplement le cinéma peut-être. Comme tous les mois, vous serez en bonne compagnie pendant la prochaine heure et demie, puisque je suis entouré de la fine fleur des voix cinéphiles. En effet, un film de Werner Herzog ne serait rien sans paroles et sans musique, de même que notre émission ne serait rien sans nos voix qu'il mixe, compresse et arrange en direct. Bonsoir Victor.
Bonsoir Nicolas.
Bien que Herzog soit le seul cinéaste à avoir filmé sur les 7 continents, il reste un pays qu'il n'a pas encore exploré, la Bretagne, et j'en ai un ambassadeur en face de moi. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Nicolas.
Le réalisateur est aussi un grand marcheur, il en a même écrit un livre, Le Chemin des Glaces, que je vous conseille. Un point commun avec celle qui a déjà été inscrite à un club de randonnée. Bonsoir Adeline.
Club de Paris 1, randonnée. Bonsoir Nicolas.
Et le saviez-vous, Herzog veut dire duc en allemand. Eh bien lui préfère largement le duc de Bavière au duc de Boulogne. Bonsoir lui.
Bonsoir Nico.
Mais avant de se plonger dans l'univers de Werner Herzog, parlons d'un cinéaste qui nous a marqué cette année, Ridley Scott.
The truth does not matter. There is only the power of men.
This should be settled quietly.
I'm innocent.
I request a duel to the death.
If you lose, your wife will suffer dire consequences.
One of us has lied. Let us let God decide.
You do not believe me.
I am risking my life for you.
You are risking my life so you can save your bride.
It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words. Style. Power. But that name was a curse too.
I've been a Gucci all my life.
Your name is in the history books.
Power. You are Gucci, you need to dress the part.
It's chic.
Et oui, donc Ridley Scott a sorti deux films ces trois derniers mois, le dernier duel et House of Gucci. Donc on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de parler de ce cinéaste de 84 ans, Lucas.
C'est ça, immense cinéaste américain qui, on le rappelle, a fait des films comme Gladiator, Alien ou encore Blade Runner, dont on a déjà parlé ici. Et j'avais déjà dit que bon, malgré le fait que je reconnaissais sa grandeur, c'était pas forcément un cinéma qui me parlait. Mais là, c'est vrai qu'il a 84 ans et il est vraiment en pleine suractivité. Il sort deux films cette année. Il a un projet donc de faire une suite à Gladiator, un projet sur Napoléon avec Joaquin Phoenix qu'il incarnerait. Je crois même qu'il a un projet de série. Donc on a, je crois, affaire à une sorte de chant du cygne, hein, sans vouloir paraître trop lugubre, d'un grand réalisateur américain. Et donc ouais, pour revenir à ces deux films qui sortent là à deux mois, même pas d'intervalle, en cette fin d'année 2021. Donc le premier, c'est le dernier duel, The Last Duel. Avec quatre gros acteurs quand même, hein, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, que je ne connaissais pas mais qui est excellente, et Ben Affleck, et qui, je peux faire un résumé très rapide, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, donc qui se passe en France, et qui est le dernier duel, je crois, donc à l'épée juridique, quoi, enfin, donc entre Matt Damon et Adam Driver, l'un accusant l'autre d'avoir violé, enfin, la femme de Matt Damon accusant Adam Driver de l'avoir violé. Et ce qui est original, c'est que c'est pas simplement un récit comme ça linéaire, c'est qu'on a trois points de vue. Donc le point de vue du personnage de Matt Damon, celui de Driver et donc celui de Jodie Comer. Trois points de vue qui rappellent donc le film Rashomon de Kurosawa. C'est un énorme clin d'œil à ce film, je pense. Enfin, c'est la même construction et le même thème. Et le tout, évidemment, amenant à un duel, comme le titre l'indique, qui est d'une tension et qui est vraiment incroyable.
Adeline, je crois que c'est un film que tu as vu sur lequel tu as un peu plus de réserve que nous, peut-être.
Alors, dans la construction, en fait, j'ai trouvé que c'était pas forcément. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Lucas, sur l'hommage à Rashomon, parce qu'en fait, je trouve aussi que c'est un hommage un peu mode. On a vu un film la semaine dernière, du coup, sur un procès, cette semaine.
Les choses humaines.
Les choses humaines. Qui était aussi sur un procès et qui aussi avait un peu ce même déroulé du coup de plusieurs points de vue. Donc pour le dernier duel, Jean de Carrouge, Guillaume Legris, Jacques Legris et du coup Marguerite, la femme. Et en fait, je trouve que c'est un peu redondant, j'aime pas forcément cette forme. Alors j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que les acteurs étaient pas mal, mais après j'ai trouvé que, et on en reparlera peut-être sur Gucci aussi, l'appropriation du coup d'un milieu qui est ici français avec des acteurs qui en font parfois un peu trop, notamment Adam Driver. J'ai trouvé que son jeu était parfois limité. Je dirais absolument rien sur Matt Damon, qui est pour moi le meilleur acteur de tous les temps et qui l'a prouvé encore une fois dans ce film où il a vraiment une capacité énorme de s'adapter et en fait de s'effacer aussi. Je trouve que Adam Driver dans ce film, il s'efface pas du tout, contrairement à Matt Damon qui souffre du coup de son physique dans ce film qui est vraiment malmené. Il a une cicatrice sur le visage, il est bedonnant, très un mulet. Enfin vraiment c'est pas du tout flatteur pour lui, alors que Adam Driver, il est toujours flatté dans sa façon d'être, en fait. Et même historiquement parlant, on n'arrive pas trop à avoir de notions, parce que en parallèle, Ben Affleck a les cheveux décolorés complètement, de façon presque ridicule. Et du coup, j'étais assez partagée sur le film, finalement, parce que je trouve que des fois, il joue avec le ridicule. Moi, j'ai été horrifiée d'entendre Adam Driver faire « Jeanne de Carouge », comme ça, aussi de façon aussi théâtrale.
Ça, du coup, c'est la même problématique dans le deuxième film dont on va parler, qui est House of Gucci, où, ouais, évidemment, oui, on parle anglais alors qu'on parle de la famille Gucci, mais c'est pas vraiment un problème. Il fait pas un film d'histoire, il se réapproprie l'histoire. Bon, oui, il y a des acteurs américains. Bon, à un moment, faut vendre le film aussi. Et d'ailleurs, il a pas du tout marché, même avec ces acteurs-là. Donc, même en faisant ça, ça suffit pas. Alors, j'imagine même pas si on avait parlé le patois français de l'époque, ce qui aurait été très bien aussi, hein, mais c'est sûr qu'il y a des réalités après économiques derrière. Et puis même, on est dans un film, encore une fois, c'est pas un bouquin d'histoire, je trouve pas ça hyper dérangeant.
Moi, ça m'a pas forcément gêné. J'ai trouvé que ça m'a gêné plus sur l'entre-deux, en fait. Quitte à faire un film, un dernier duel, tout le monde s'en fiche que ça se passe en France, et tout le monde s'en fiche que ce soit une histoire vraie. Autant dire Jeanne de Carouge en anglais et abandonner un faux accent français. En fait, j'ai trouvé que, et c'est aussi peut-être le problème pour Gucci, que pour le coup, je vais faire une aparté, je n'ai pas encore vu. Mais du coup, j'ai vu beaucoup d'interviews de Jared Leto, de Lady Gaga, etc. sur ça, qui m'ont un peu horrifié sur l'histoire du parmesan et aussi sur l'histoire Lady Gaga, qui a parlé avec un faux accent italien pendant 6 mois pour se préparer au rôle, où en fait on comprend pas vraiment l'intérêt de coller à une réalité historique, alors que de toute façon elle y est pas, cette réalité historique, et quitte à jouer le jeu, autant abandonner cette réalité historique comme le ferait un film sur les Trois Mousquetaires avec que des acteurs américains.
J'ai l'impression que c'est moins présent sur le dernier duel que sur House of Gucci, parce que le dernier duel, oui, des fois ils disent, en fait ils disent avec leur accent américain des noms français, tandis que dans le House of Gucci ils essaient toujours d'imiter chacun un accent italien différent. Du coup, ils ont tous un accent différent, je dirais qu'ils sont pas du même pays, pas
oui,
le même film.
Oui, je suis d'accord, autant assumer à 100% de parler anglais.
Peut-être pour finir avec le dernier duel, moi c'est un de mes films préférés de l'année, et Ridley Scott il m'a un peu déçu, j'allais dire, toute la décennie, avec des films comme Cartel que je ne comprends vraiment pas, même si je sais que c'est un film qui est assez fun. Mais là je trouve que justement cette structure avec 3 points de vue différents, ça pourrait être une facilité de se dire, bon ben on fait le point de vue A, le point de vue B, le point de vue C, et voilà, on s'en débarrasse. Et au contraire, Ridley Scott, il aurait pu se laisser aller à une certaine paresse et se dire, j'ai juste à filmer de point de vue différent et ça marche. C'est un gars qui a plus besoin de faire ses preuves, Ridley Scott, qui tourne un peu à la chaîne. Et là, au contraire, je trouve qu'il accorde vraiment une importance à la mise en scène qui est sur beaucoup de petits détails, sur le jeu des acteurs, sur les décors, sur les lumières, qui est un grand esthète, Ridley Scott. Même sur il joue avec les focales selon les points de vue, etc. Donc je trouve que c'est une leçon de mise en scène, ce que n'est pas House of Gucci, mais on va y revenir.
C'est ça, on a l'impression de revoir les mêmes scènes des fois, enfin c'est les mêmes moments qui sont remontrés, mais il y a des petits détails en fait qui changent tout, juste des regards ou qui prend la parole en premier, enfin c'est des tout petits détails, même la scène de viol donc, qui est montrée 2 fois à la fin, donc par le point de vue de Driver et de celui de Jeu du Commer, on a l'impression que c'est la même, mais il y a des mini détails, de mini paroles qui sont rajoutées ou enlevées et qui en fait changent tout.
Et en plus c'est marrant de faire... un film sur ce sujet quand on est un réalisateur de 84 ans, que apparemment rien nous amène à ce sujet et qui pourtant je trouve le réussit très 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 bien.
C'est ça, parce qu'évidemment c'est un film ultra moderne, c'est ce combat là médiéval, c'est qu'une toile de fond pour parler du viol à l'ère MeToo. Enfin moi c'est en tout cas comme ça que j'ai ressenti. D'ailleurs des fois je trouvais ça peut-être un peu trop pas assez subtil dans sa manière de dire regardez en fait je parle d'aujourd'hui, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît un grand film, c'est qu'il y a de la métaphore comme il y en avait dans Alien ou dans Blade Runner.
Et donc, c'est malheureusement, le film a coûté 100 millions de dollars. On sait que pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse au minimum 4 fois son budget, le temps de rembourser le coût marketing, le coût de distribution, les entrées dans les cinémas, tout simplement. Et là, donc, pour 100 millions de dollars, c'est un film qui a seulement fait 27 millions de recettes, ce qui n'est vraiment rien. Du coup, c'est un film qui a été fait à perte. Et Scott, je ne sais pas si vous avez vu cette interview, mais il blâme la génération qu'il appelle Facebook, les millennials qui ne veulent jamais rien apprendre, à moins que ça soit écrit sur leur smartphone. Donc bon, il a quand même 84 ans, donc c'est normal qu'il ait une réaction comme ça.
Après, mais c'est un peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité aussi ?
Il y a totalement une part de vérité dedans.
Beaucoup trop tranché.
Oui, parce que après, le film a été très mal vendu, j'ai trouvé.
Oui.
Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer aux gens, et notamment, en fait, on pensait que c'était un Gladiator, ou en fait, du fait que on en a parlé aussi dans l'émission de Blade Runner, mais du fait qu'il ait une filmographie très athlétique. En fait, on pourrait se rattacher à ce qu'il a fait. Et souvent, bah, moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, Kingdom of Heaven, Gladiator, etc. » Et du coup, c'est vrai que bah, le sujet, en soi, touche peu un procès à l'époque médiévale, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très psychologique. Et moi, je suis vraiment d'accord avec vous sur la mise en scène. En fait, c'est exceptionnel. Les plans sont magnifiques. Les plans dans la chambre à coucher, moi, qui m'ont beaucoup marqué, en fait, de la dispute ou non entre Matt Damon et... Jodie Comer, j'allais dire Jodie Foster, c'est pour ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un effort dans les lumières, etc. Et c'est dommage que ça ait peu marché, mais je comprends aussi dans l'équipe de com, en fait, où vraiment il y avait juste des affiches, où, un peu comme on pourra en parler un peu en aparté, mais de Pig, qui est un film avec du coup Nicolas Cage, qui a été très mal vendu aussi, et qui, je pense qu'il y a un vrai problème plus largement aussi sur la communication cinématographique actuellement. En fait.
Justement, au contraire, House of Gucci, donc on va passer à ce deuxième film, c'est un film qui a été, je trouve, très bien vendu. Genre, on a vu les bandes annonces partout, c'est annoncé un film flamboyant, la musique
Blondie.
De Blondie, ça fait toujours effet, quoi. Je pense que tous ceux qui ont vu La vie nous appartient s'en souviennent. Et donc c'est un film qui donne envie à tous les gens à qui j'ai parlé, avaient envie de voir ce film, parce que c'est un film qui a l'air flamboyant, qui parle de la mode, c'est un film fleuve aussi, qui raconte une histoire de famille sur plus de 2h30. Donc c'est un film que j'attendais beaucoup et j'ai été déçu. Je sais que ce n'est pas le cas pour toi, Lucas, mais je vais peut-être dire ce que grief que j'ai envers le film, c'est que cette flamboyance qui est annoncée, qui devrait coller au sujet, elle n'est pas présente, mais on a l'impression que Ridley Scott voudrait quand même la montrer, ce qui il met des dizaines et des dizaines de musiques un peu à la Scorsese, pour prendre des gros guillemets. Mais des fois, ça fait un peu jukebox. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en demi-teinte. On va parler d'un acteur en particulier, je pense. Et au final, je trouve que le film a du mal à raconter ce qu'il veut raconter. C'est le personnage de Patricia Gucci, qui est donc incarné par Lady Gaga. On a du mal à la cerner pendant tout le film, j'ai l'impression.
Ah bah, c'est ça qui est génial, justement.
Oui, non, mais ça paraît plus comme un truc maladroit, j'ai l'impression. Comme beaucoup de personnages...
Il a peut-être pas fait exprès.
Mais... Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, justement, Ridley Scott. J'ai l'impression que c'est un peu fait à l'arrache, qu'il sait pas trop où il va. Et des fois, il s'attarde sur des pans de l'histoire qui sont intéressants, mais qui viennent un peu pas rester le sujet. Et au final, on s'attache pas vraiment à cette famille Gucci. Non. Et j'ai l'impression que c'est un peu le parangon du Ridley Scott qui n'a pas de style, ce que tu reprochais. Enfin, tu reprochais à Blade Runner sa mise en scène. Tu disais qu'il y avait pas trop de... Tu voyais pas. C'est pas un film qui était. C'est un film d'esthète, mais pas non plus réalisé à la perfection.
Ouais.
Et là, je trouve que ça aurait pu être réalisé par n'importe qui, en fait, à ce goût-là.
Peut-être, mais moi, au contraire, j'ai été vraiment très peu touché par le côté marketing. Au contraire, ça me donnait pas du tout envie. Je trouvais l'affiche horrible. Cet alignement de stars comme ça, souvent, ça me saoule un peu. Donc, j'y suis allé un peu à reculons. Et bon, c'est pas un film que j'ai adoré non plus, mais j'aimerais bien le défendre un peu. Parce que déjà. Ça revient sur l'histoire des Gucci, je sais pas toi, mais moi je n'y connaissais absolument rien et un milieu dont je me fous complètement. Mais faut avouer que c'est une histoire quand même de dingue, ça s'intéresse pas à la jeunesse de Gucci, mais à ce tournant des années 80-90. Et donc sans vouloir moi, la divulgâcher ou pas, bon après c'est une affaire médiatique qui a été connue, mais il y a un meurtre. Et puis c'est quand même assez dingue tout ce qui se passe même avant, même au niveau des actionnaires et tout ça. Mais là encore je trouve que même si cette histoire est fascinante et que Ridley Scott en fait quelque chose d'assez agréable à suivre, et ben c'est aussi là, comme pour le dernier duel, une toile de fond pour amener cette histoire d'amour entre très gros guillemets entre donc le fils Gucci, donc Adam Driver encore une fois, et Lady Gaga, qui est une histoire d'amour assez horrible quand même et qui se finit assez mal pour le coup, et mais je la trouve géniale parce que les deux personnages sont constamment tiraillés entre l'amour de l'autre et l'amour de l'argent et du pouvoir, et tu sais jamais vraiment, ce que tu disais, tu sais jamais vraiment où Lady Gaga se place là-dedans. Et une scène géniale, pour moi la meilleure scène, c'est quand ils se rencontrent au début du film dans la boîte, et que donc elle va le voir parce qu'elle le trouve bel homme, je suppose, et là elle se rend compte qu'elle fait face à Gucci, il lui dit le nom Gucci, et là elle s'arrête, le plan s'arrête, on voit son visage, elle comprend quoi. Et je trouve que c'est un truc qui reste tout le film, à savoir est-ce qu'elle est vénale ou est-ce qu'elle est amoureuse. Et évidemment, c'est un peu des deux. Mais il y a ce truc génial qui fait que on sait jamais vraiment pourquoi elle s'accroche à ce mec. Est-ce que c'est pour son argent ou parce qu'elle l'aime tout simplement. Et tu reprochais peut-être le manque de, je sais pas, de patte à ce film qui aurait pu être fait par n'importe qui d'autre. Oui, c'est peut-être vrai, mais en fait c'est très gris, c'est filmé très simplement. Mais en fait, je pense que c'est parce que Scott n'a aucune passion pour ces personnages-là. Il les méprise en fait, et c'est un film hyper misanthrope parce qu'il y a aucun personnage qui est admirable. Ils sont au contraire tous détestables, sauf Adam Driver dans le premier quart d'heure, et puis après ça dégringole. Mais donc voilà, t'as ce côté un peu chute des dieux, enfin c'est tous des dieux, mais qui en fait n'ont pas de cœur, n'ont pas d'âme, que je trouvais intéressant, et voilà, je tenais à le défendre. Et surtout, même Jared Leto qui joue très mal, mais qui en fait joue très bien, parce qu'il joue tellement mal qu'en fait c'est bien.
Ouais, j'étais sûr que t'allais dire cet argument, parce que j'ai l'impression que tu as la même fascination que pour la scène de Matrix Reloaded avec les agents Smith.
C'est ça.
Ah ouais, non, Jared Leto, c'est quelque chose, vraiment, je pense que c'est la... Et je sais pas si ça existe encore, les Radio Awards, les faux Oscars,
si, ça existe. Mais...
Ben là, je pense que c'est...
Non, parce que finalement, c'est bien. Ça, c'est bien dans le film.
Mais je vous invite à écouter une interview de Lady Gaga sur la préparation, parce que ça explique aussi un peu la préparation de Ridley Scott. Donc encore une fois, j'ai pas vu le film, mais en fait, elle disait que... Elle n'a pas rencontré, en fait, Patricia Reggiani, elle est sortie de prison. Et donc, en fait, ils auraient pu rencontrer Patricia Reggiani, et en fait, elle a refusé de la rencontrer, parce qu'elle trouvait que la personne était trop perverse, en fait, et qu'elle allait l'influencer dans son rôle. Et du coup, en fait, c'est qu'une vision médiatique, on va dire, de l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Et du coup, contrairement à des films, par exemple, sur Versace, qui est un peu similaire, en fait, beaucoup de gens ont dit c'est comme le film sur les Versace, qui est aussi une histoire tragique et un peu dans le même contexte. En fait, il n'y a pas eu en fait d'enquête de la part de Ridley Scott et non plus des acteurs. En fait, ils ont joué des gens qu'ils voyaient sur des archives, etc. Et du coup, c'est un peu plus difficile que pour le dernier duel, parce que le dernier duel, en fait, ça se base sur des écrits et aucune représentation, en fait. Et là, ça se base sur des représentations qui sont très médiatisées, notamment dans les années 90. La télé italienne, elle est très présente sur les procès. Et en même temps, ils n'ont pas cherché à... Moi, je trouve ça dingue qu'elle n'ait pas cherché à la rencontrer. Parce que...
Tout en ayant passé 6 mois à imiter l'accent italien.
C'est ça, et en fait, c'est du coup, je pense que ce qui a été reproché au film, et moi, je vais aller le voir la semaine prochaine quand même, parce que je suis quand même curieuse de me faire mon avis, mais qu'en fait, finalement, c'est plus une représentation de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait être italien, de ce que ça pourrait être en Gucci, sans avoir cherché à faire une enquête.
C'est un film qui ne part pas une seule seconde, de mode, quoi. C'est vraiment sur ce... Cette bulle, cette famille Gucci, et d'ailleurs, les héritiers Gucci veulent porter plainte là contre, je sais pas si c'est contre les producteurs ou contre Ridley Scott directement, mais parce que évidemment, ils sont pas comme des humains, quoi.
Et donc, c'est deux films qui sont tous les deux assez longs, qui durent 2h30.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il manque un truc dans House of Gucci, et apparemment, il y a des scènes dans le bande-annonce, comme c'est souvent le cas, qui ne sont pas là.
Apparemment.
Et Ridley Scott prévoit en fait des versions longues de ces deux films. Alors, il dit c'est des versions longues, ce n'est pas des director's cut. Parce que la version actuelle, c'est une version que j'ai approuvée, mais je veux faire des versions un peu plus longues. Et il refuse donc le terme director's cut, et je le cite, il dit « Cela fonctionne mieux chez soi, on peut mettre pause, chercher une bière et revenir. » C'est une vision, un certain mépris de son cinéma aussi, j'ai l'impression que c'est bizarre pour un réalisateur aussi prolifique d'accorder assez peu d'importance à l'expérience devant les films. On peut peut-être vite conclure sur les projets qui l'attendent. Toi, Louis, est-ce que tu attends un de ces projets de genre Kid Bag, qui est la suite? Non, qui est le film sur Napoléon, ou Gladiator 2 ?
Pas forcément, ni l'un ni l'autre. Après, j'ai beaucoup de respect pour Ridley Scott, beaucoup d'admiration pour lui. On en a fait un débat en parlant de Blade Runner. Et juste pour revenir sur les deux films, je suis malencontreusement passé à côté de The Last Duel, mais je pense que je le rattraperai dès que je pourrai. Et pour House of Gucci, c'est de façon un peu plus volontaire que je suis passé à côté, parce que des proches qui l'ont vu et qui me connaissent bien m'ont dit « je suis vraiment pas sûr que ça puisse te plaire ». Donc je sais pas, oui en effet, sur Napoléon, j'ai une petite attente, donc j'irai et puis je rattraperai The Last Duel dès que je pourrai.
Après ça sent un peu le sapin quand tu commences à faire un film sur Napoléon, c'est souvent quand tu es réalisateur.
C'est un projet, j'en avais entendu parler, je m'en rappelle très bien, c'était en fin 2013 déjà qu'il en parlait de ce truc qu'il voulait adapter en série. Ou alors c'était Spielberg, mais enfin il se battait un peu le projet. Est-ce que c'est ce fameux projet de Napoléon par Kubrick qui voulait être adapté en série? Donc je ne sais pas s'il essaiera de faire ça ou pas, Ridley Scott en adaptant Napoléon, mais oui, c'est toujours... On ne sait pas trop vers quoi il ira, mais on verra. Attends, il annoncera 12 autres projets entre-temps. Peut-être qu'il ne fera pas ce film. On ne sait pas. En tout cas, merci pour ce débat sur Ridley Scott. Et maintenant, on va passer à notre réalisateur et au sujet du mois. Alors, on aurait bien fait peut-être une version longue de ce podcast, mais il nous reste plus qu'une heure, une grosse heure. Et donc, on va s'écouter un petit trailer de Grizzly Man.
Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow.
When you spend a lot of time with bears day after day, there's a calling that makes you want to come in and spend more time in the world.
Expedition 2001, I came here and protected the animals as best I could. In fact, I'm the only protection for these animals out here. Animals rule. Timothy conquered.
He tended to want to become a bear.
Most times I'm a kind warrior out here. Occasionally I am challenged, and in that case, the kind warrior must become a samurai.
C'était donc la voix de Timothy Treadwell, qui est la personne au centre de ce documentaire Grizzly Man. Et c'est vers toi que je me tourne, Lucas. Pourquoi avoir choisi Grizzly Man?
Alors, vaste question. Pourquoi je l'ai choisi? Bah déjà, parce que bon, c'est plus un secret, je pense qu'on l'a déjà suffisamment démontré autour de cette table. On aime tous le genre documentaire qu'on valorise dans sa modalité cinématographique. À savoir que le documentaire est un peu trop associé à la télé, je pense, pour le grand public. Alors que non, c'est un vrai genre avec de vrais auteurs qui modèlent la réalité pour faire passer leur message. Puis en plus, là, pour Grizzly Man, il y a la présence d'animaux, et j'aime beaucoup la présence d'animaux au cinéma, même si c'est absolument pas un documentaire animalier, hein, c'est, au contraire, c'est un documentaire sur l'humain. Et c'est ce qui fait que, bah, justement, c'est un de mes films préférés, réalisé par un immense nom du documentaire, donc Werner Herzog, qui est aussi connu pour ses films de fiction, donc Aguirre, La colère de Dieu, ou Fitzcarraldo, mais donc il est surtout connu, je pense, un peu plus pour ses documentaires, et notamment Grizzly Man, donc, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je vais raconter, je pense, résumer rapidement l'histoire avant de vous donner la parole, mais c'est une histoire assez folle, justement, que justement Herzog ne se contente pas juste de raconter, il en fait quelque chose, et il interroge en fait cette histoire sous le prisme de ses propres obsessions, qui sont le chaos, la mort, et toute la frontière entre la raison et la folie. Alors pour résumer, Grizzly Man, ça s'intéresse à une tranche de vie de Timothy Treadwell, qui est un homme américain qui, au moment des faits, on va dire entre 30 et 40 ans, vous allez vite comprendre pourquoi je parle au passé, et donc qui passait ses étés en expédition en Alaska, où il se filmait à côté de grizzlies, donc qui sont ces grands ours hyper impressionnants et dangereux, peut-être les animaux terrestres les plus dangereux au monde devant les félins. Et donc, il se met en scène à côté de ces grizzlies dans le but de sensibiliser le public à leur protection. Et le truc, c'est qu'il se voyait vraiment comme l'ami de ces bêtes et leur protecteur. Et de fait, c'est vrai qu'il avait un certain don, je pense, parce qu'il approchait vraiment ces animaux de très près. Donc, un don un peu inexplicable, inexpliqué. Mais il avait quand même des connaissances biologiques et éthologiques qui lui permettaient de faire ça. Sauf que, lors de sa 13e expédition, eh bien, Timothy Treadwell finit par se faire dévorer vivant par l'un de ses grizzlies. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est qu'il filmait toutes ses expéditions, il se mettait vachement en scène, et donc il laisse derrière lui, après ses 13 expéditions, bah, des centaines d'heures de rush, de vidéos, sur lesquelles justement Werner Herzog va se baser pour faire son documentaire, en plus d'aller interroger des personnes qui ont connu ce Timothy Treadwell, pour tenter d'éclaircir le parcours de ce mystérieux bonhomme. Donc voilà, je pense que c'est le cas Treadwell est un exemple parfait pour Herzog pour mener une enquête qui englobe, comme je l'ai dit, les thèmes qui l'obsèdent, donc la folie et l'homme face à la nature. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce documentaire. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, qu'en avez-vous pensé?
Je pense qu'on peut commencer avec toi, Louis, car tu es un herzoguien assez poussé.
C'est vrai. Et souvent, la question que tu nous poses avant le débat, c'est de savoir comment est-ce qu'on a rencontré ce réalisateur, donc en l'occurrence Werner Herzog. Et moi, c'est justement plutôt par ses fictions. Tu disais, Lucas, qui était beaucoup plus connu pour ses documentaires, c'est
non,
vrai.
Non, j'en sais rien, mais c'est kiff-kiff, quoi.
Mais en fait, c'est un ami, Thibaut, que j'embrasse, qui est très très fan de ce grand monsieur Werner Herzog. Et à l'occasion d'un cycle qu'on s'est fait entre nous autour de la figure du vampire, donc on a regardé Coppola's Dracula, Nosferatu de Murnau, et donc en parallèle le Nosferatu d'Herzog, j'ai tout de suite accroché avec le style d'Herzog. Très vite, du coup, on s'est mis à regarder aussi Fitzcarraldo. Et en fait, j'ai tiré le filon plutôt des fictions herzogiennes avec son acteur fétiche, on en parlera plus tard, Kinski. Et j'ai entamé les documentaires avec justement un documentaire qui traite de la relation Kinski-Herzog. Ça s'appelle Ennemi intime. De là, j'ai commencé à creuser, j'ai vu des dizaines d'Herzog. Et je me suis replongé dedans avec un immense bonheur pour préparer cette émission. J'en ai revu des dizaines. Et j'ai fini par voir du coup Grizzly Man, qui est absolument incroyable, et tu l'as très bien résumé, je pense que tu as très bien résumé les enjeux inhérents à ce film, et tout ce qu'il porte, et j'ai hâte vraiment qu'on en discute.
C'est vrai que tu parles de dizaines d'Herzog, mais ce que ne savent peut-être pas nos auditeurs, c'est que c'est un cinéaste prolifique, peut-être un des cinéastes les plus prolifiques.
Très prolifique, elle est infinie ça.
Actuellement, c'est que, justement, genre, tu parlais de notre rapport à Herzog, moi ça se fait un peu en deux temps. Donc c'est en 2014-2015, je m'intéresse à Fitzcarraldo parce que j'avais vu une vidéo du fossoyeur de film qui parlait de Fitzcarraldo. Et Fitzcarraldo, je pense, c'est une bonne porte d'entrée pour Herzog parce que c'est un film démentiel qui a coûté très cher, qui est tourné en pleine Amazonie dans des conditions infernales.
Je pense qu'on pourra revenir dessus.
Voilà, il commence à filmer avec Mick Jagger, à moitié du tournage, ça s'arrête, c'est Kinski qui vient. Bref, c'est un film très marquant dans l'histoire du cinéma. Et donc j'avais, enfin, mon papa qui sera dans le public le mois prochain, m'avait offert un coffret Werner Herzog, le volume 2 que tu as acheté, je crois, Louis.
Et j'ai fini par craquer et prendre le 1 également depuis.
Moi aussi, je suis toi. Et donc, on m'avait offert ce coffret et j'avais découvert donc, non seulement Fitzcarraldo, mais aussi pas mal de films à côté. Ce qui est marrant avec Herzog, c'est qu'il a fait à la fois des films assez gros, assez marquants dans l'histoire cinéma, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires sur tous les sujets qui l'intéressent. Il y a des documentaires de 1 heure, il y a des séries de 8 heures, il y a des documentaires d'un quart d'heure, et ça part dans tous les sens.
Il y a de tout, il y a du court, du moyen, ça du long, en documentaire, en fiction. Ça parle de, il a des sujets et des thématiques fétiches, évidemment, mais ça parle de tout, ça traite de tout. Après, on reviendra peut-être plutôt sur ce qui l'intéresse et ce qui l'interroge, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose en commun. Mais en effet, c'est très très prolifique et je ne sais pas où s'arrête sa filmographie. Je ne pourrais pas mettre un nombre sur sa filmographie.
Bah, j'ai une interview où le gars qui l'interview lui dit « Ça vous fait quoi d'avoir réalisé 60 films ?» Herzog dit « Oh, j'en ai fait plutôt 70 pour l'instant. » Et donc, je m'étais un peu arrêté après avoir découvert les quelques films de ce coffret. J'avais vu Aguirre au cinéma. J'ai eu cette chance de le voir sur grand écran au Gyptis à Marseille. Cinéma qui se trouve à 5 minutes. Cinéma qui se trouve à 5 minutes du lieu de Péril sur la ville. Vous savez, ce documentaire dont on en parlait le mois dernier. Bref. Et là, justement, le fait que Lucas, tu proposes Grizzly Man, je me suis dit, je vais un peu me plonger dans sa filmographie. C'est devenu une véritable obsession avec Louis. Tous les jours, on s'envoyait des messages pour se dire quel film on avait vu d'Herzog.
Chaque jour, pendant 2 semaines, tous les soirs, on s'envoyait le Herzog qu'on regardait.
C'est dingue.
Et c'est incroyable parce qu'il a des obsessions. Tu disais, Lucas, le chaos, la mort, la limite aussi entre la folie et la raison, mais aussi entre les forts et les faibles.
Et le passage plutôt entre la raison et la folie.
Et la limite entre. Enfin, il aime bien filmer les forts et les faibles, ce qui. Oui. On peut faire des raccourcis très vite avec un cinéaste allemand, évidemment. Mais lui, il s'intéresse vraiment aux gens qui sont en apparence faibles et qui sont beaucoup plus forts que le reste des personnes. Il y a aussi pas de frontière entre le documentaire et la fiction, on y reviendra dans son cinéma. Et donc bref, pendant le dernier mois, tous les soirs, je me suis regardé un petit Herzog. Et on peut prendre n'importe quel film de sa filmographie. Ça sera 7 thèmes à Herzog, mais ça sera un sujet vraiment qui part dans tous les sens. Ça part de documentaire sur les météorites, à une fiction avec des nains, qui s'appelle Les Nains aussi, On commençait petit.
Très bon titre.
Très bon titre, film bizarre à regarder, mais voilà. Et donc voilà, Herzog, c'est tout ça, et ça devient un peu une drogue, en fait, de découvrir Herzog.
Ça devient une drogue dure.
Je me tourne vers toi, Adeline. Quel est ton rapport à Herzog ?
Et moi, je suis un peu l'antagoniste de cette table, puisque je n'avais rien vu d'Herzog avant, et je voulais remercier Lucas, parce qu'en fait, j'étais assez... dans le doute un peu, en fait, je me disais que si j'avais jamais regardé de film d'Herzog, c'était peut-être pour une raison et que voilà, il fallait continuer sur cette voie et qu'il fallait la continuer. Et en fait, j'ai commencé par Grizzly Man et j'étais très choquée par on en reparlera quand on va développer sur le film, mais j'étais très touchée par le film en tout cas. Et ça m'a donné un peu envie d'en voir plus, ce qui est assez rare, d'être autant happée en fait. Et je trouve que Herzog, c'est un grand puzzle. Et en fait. Il y a plein de choses qui sont différentes. Des fois, on a des ressentis très, très personnels aussi sur certains films. Je pense que, par exemple, sur la fiction, j'ai eu la chance de voir Fitzcarraldo au cinéma dernièrement. Mais j'ai regardé Aguirre et en fait, c'était assez intéressant parce que rien du film ne m'a touchée. Mais ce qui m'a touchée, c'était la réalisation. C'était tout le travail de réalisation. Et en fait, pendant tout le film, j'étais un peu en dehors. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, c'était un peu voulu aussi. Parce que je me suis peut-être moins plongée que Louis et Nicolas sur sa filmographie, mais je me suis plus plongée sur des interviews de lui.
Tout aussi passionnante. Hein.
Et voilà, c'est quelqu'un de très passionnant. Et sa façon de réagir à la vie et de réagir aussi à l'interaction sociale, en fait. C'est que moi, ce qui m'a vraiment étonnée dans les films d'Herzog, c'est qu'il est omniprésent. Que ce soit en fiction ou en documentaire, en fait, il a quelque chose. Une omniprésente presque, enfin de l'ordre de Dieu, en fait, c'est très étrange. Et j'ai vu un podcast en anglais où en fait il était invité et où en fait les gens disaient ce qui est le plus important chez Herzog, c'est sa voix. Et on en reparlera pour Grizzly Man, mais c'est vrai qu'en fait c'est obsédant et en même temps c'est un côté addictif. Je trouve que ce qui est addictif chez Herzog, c'est sa voix, et même quand il ne parle pas et dans une fiction ou des choses comme ça. Il y a une omniprésence et quelque chose de très addictif.
Son silence est pesant. Quand il s'arrête de parler, son silence est très pesant. Et quand il parle, en effet, on écoute avec ce magnifique accent allemand dont on ne pourrait se détacher et qui nous hante encore des heures après avoir vu un film de lui.
Bah justement, passons à Grizzly Man, peut-être.
Ouais, non, mais complètement. Je vais rebondir sur l'omniprésence. C'est une voix, celle d'Herzog, hyper addictive et surtout une façon de raconter un rythme qui est fabuleux quoi, pour raconter une histoire. C'est quelqu'un qui sait raconter une histoire. Et donc oui, normalement, il est très omniprésent quand il raconte ses documentaires. Dans Grizzly Man aussi, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de passages où il laisse vraiment parler les archives. Et pourquoi il les laisse autant parler ? Ben, c'est parce que Timothy Treadwell, c'est un personnage hors norme, quoi. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin vraiment de raconter des fois ce qu'on voit à l'image. Ça se suffit. Donc, sans vouloir faire offense à la mémoire de cet homme qui est quand même, rappelons-le, disparu dans une mort atroce, quoi. Il faut quand même en parler avec des mots qui sont parfois un peu difficiles parce que sinon on n'avance pas. Il faut parler de la naïveté de cet homme, de son inconscience et justement de sa folie. Je crois que un des premiers aspects que Werner Herzog soulève dans le film à propos de Timothy Treadwell, c'est son côté enfantin. C'est que c'est un enfant qui s'émerveille pour rien. Enfin, pour rien. Il est quand même face à des grizzlies, mais c'est peut-être un peu disproportionné. Il parle un peu comme un enfant, il faut le dire. Il a une voix hyper aiguë avec des intonations très enfantines, encore une fois. Et ça, d'ailleurs, c'est un aspect qui tient à Herzog, puisqu'à un moment, donc, on en reparlera, il va chez les parents de Timothy Treadwell. Et il remarque un ours en peluche et je crois que ça obsède un peu Herzog. Il y voit vraiment un signe du destin. C'est quelque chose de très lugubre, de très glauque de voir ce gamin qui jouait avec un ours en peluche finir dans le ventre d'un ours, pas en peluche.
En fait, je trouve que ce documentaire, c'est ça qui m'a choqué. C'est pas une construction, c'est une déconstruction d'un personnage. En fait, je trouve que c'est vraiment affreux. Moi, ça m'a touchée parce que en fait, je me dis. C'est dingue d'avoir pris toutes les archives de quelqu'un, d'avoir un rapport qui est obsessionnel. En fait, on sent qu'à la fin, le montage, etc., c'est très, très... En fait, Herzog, il connaît la personne dont il a affaire. Et au lieu d'en faire un film à sa gloire, parce que, il est mort tragiquement, il est mort il n'y a pas si longtemps par rapport à la réalisation du film. Timothy Treadwell, il meurt en 2003, je crois. En 2002, et le film sort
en 2004.
Donc c'est très rapide, en fait, c'est vraiment intense pour la famille et des choses comme ça. Et en fait, Herzog, il déconstruit complètement le personnage, et c'est une descente aux enfers, en fait, d'un point de vue d'une personne qui connaît pas du tout son histoire. Je pense qu'aux États-Unis, il doit être un peu plus connu, parce qu'il explique qu'il avait une présence un peu médiatique, etc. Mais d'un point de vue français, qui connaît pas du tout, en fait, le personnage, c'est vraiment une déconstruction parfaite, et c'est ça qui est marquant.
Pour rebondir justement sur ce thème de déconstruction, moi, à la fin, il y a une intervention d'Herzog qui m'a un peu glacé, c'est qu'il dit, je cite, « Ce qui me hante, c'est que chez aucun des ours que Treadwell a filmé, je n'ai vu d'affinité, de compréhension ou de pitié. Je n'ai vu qu'une accablante indifférence de la nature. Pour moi, il n'y a pas d'univers secret des ours. » C'est-à-dire qu'on vient de passer une heure et demie avec un mec qui voit tout l'inverse, qui voit chez les ours une certaine, pas une humanité, mais une anti-humanité, qui veut les rejoindre, etc. Lui, il voit un monde secret des ours. On vient de passer une heure et demie avec ce mec-là. Nous-mêmes, on n'est pas forcément convaincus. Personnellement, j'avais la même posture qu'Herzog. Je me disais, mais les ours, eux, ne voient pas Treadwell comme Treadwell les voit. Mais tu finis quand même par y croire en même temps que lui. Tu t'attaches, t'as envie d'y croire avec lui. Et Herzog, à la fin, te lâche ça. à la fin, il, en fait, c'est vrai, il te dit bah, que le regard des ours, il relativise tous les fantasmes de Treadwell. Donc, en une réplique, pour moi, Herzog déconstruit, tout, comme tu l'as dit, tout ça à la fin du film. Et moi, ça m'a vraiment presque glacé, cette réplique.
Bah, je suis d'accord, c'est vraiment le point le plus fort du film. C'est là où Herzog expose sa vision d'auteur. C'est-à-dire que, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des points où Herzog ressent de la tendresse, je pense, pour Timothy Treadwell. Mais pour tout ce qui est écologie, éthologie et rapport aux animaux, il est à l'opposé total. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa filmographie. Je pense à Herzog, c'est qu'il n'en a rien à foutre des animaux. Je crois que parmi la dizaine ou douzaine de films que j'ai vu d'Herzog, il n'y en a pas un seul où je vois pas un chat se faire jeter du troisième. Et c'est pas un blâme que je fais ou un reproche, c'est bon.
Ou des singes aussi dans
Aguirre. Et dans Aguirre, bon, c'est une autre époque. Je pense qu'il pourrait plus le faire aujourd'hui. Mais même dans un film récent, dans Banlieue de Nantes, bon, évidemment, il y a un crocodile éventré, enfin, évidemment, c'est pas un vrai, mais il a quand même ce besoin de montrer l'animal défiguré, cassé et mort. Et je crois qu'en fait, il y croit pas du tout à l'amitié homme-animal. Ça tombe bien, moi non plus. Et d'ailleurs, c'est un contrepoint avec un documentaire récent qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire, qui est La Sagesse de la Pieuvre, qui est une abomination sans nom et qui veut te faire croire à l'amitié homme-animal, alors que Herzog, je pense, est plus malin que ça, même s'il va peut-être un peu trop loin. Lui, il voit vraiment une rupture nette. Entre l'homme et la nature, il y a que du chaos, quoi.
Oui, mais sans pour autant être anti-écologique, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans Grizzlyman, quand il fait l'interview en fait du mec de la réserve et qui dit que Timothy Treadwell, en fait, c'est un danger.
Bah, il a fait plus de mal aux ours qu'autre chose.
C'est ça. Et en fait, je trouve que du coup, c'est un regard assez lucide, parce que pour autant, il sait pas qu'il s'en bat les couilles des animaux. C'est plutôt le fait que, effectivement, il a un intérêt pour la nature, parce qu'on pourra regarder dans sa biographie, c'est un mec de la montagne, il kiffe marcher, oui. Il kiffe rien que faire trois fois des films sur l'Amazonie. Enfin, c'est quand même.
C'est juste qu'il a bien raison, il n'applique aucun concept humain à l'animal. Et là, tu parlais de la pitié. Évidemment que les ours n'ont pas de pitié, n'ont pas d'amitié.
C'est une question d'âme, en fait.
Et dans, justement, Ennemi Intime, il dit qu'une des plus grosses cassures qu'il a avec Kinski, c'est que Kinski, lui, sur le tournage, par exemple, de Fitzcarraldo, dit il voit la nature comme une harmonie, et Herzog dit non, pour moi, la nature, c'est le chaos.
Ouais.
On y revient.
C'est
toujours
le chaos. C'est vrai qu'en fait, dans Grizzlyman, je trouve qu'en fait, il y a un rapport qui est beaucoup plus politique aussi. En fait, à une notion de est-ce qu'un homme peut décider de lui-même, en fait.
De ne plus être un homme ?
Pas de plus être un homme, parce qu'en fait, ce qu'il déconstruit justement, c'est qu'en fait, Timothy Treadwell, il sera jamais un ours, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que lui, il veut être un ours, il va être l'ami des ours, et il sera jamais un ours, parce qu'en fait, c'est un homme qui a ses défauts, et qu'il a pas mal de défauts, et c'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'en fait, là, on n'a pas parlé du tout de ça, mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans le film, c'est qu'en fait, Timothy Treadwell, il meurt pas tout seul.
Oui.
Et en fait, c'est ça que je trouve aussi une partie assez intéressante du film, c'est que il fait un film sur un mec, Grizzlyman, qui n'est pas mort tout seul, qui, en fait, se mettait en scène, et ça aussi, d'un point de vue récent, en fait, c'est un film très actuel, parce que le mec vloguait sa vie, enfin, c'est du vlog, et encore une fois, moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est celle de la tente sous la pluie.
Oui, bah justement, Herzog, il prend ses centaines d'heures de rush, mais il se contente pas de recracher le mythe que Treadwell essaie de se créer face à la caméra, et c'est marrant parce qu'on le voit, Treadwell face à la caméra, et ça, Herzog le garde, on le voit répéter plusieurs scènes, se présenter, rater, genre insulter un peu, puis reprendre, essayer de bien se mettre en scène, et non seulement il déconstruit le mythe, mais surtout il montre, oui, le personnage dans toute sa complexité, qui n'empêche pas Herzog d'avoir de l'empathie pour ce gars qui était un peu fou, enfin, à mesure, on le voit devenir parano, insulter tout le monde, voir tout le monde comme un ennemi, s'idéaliser en protecteur.
Avec des doigts d'honneur qui pleuvent devant la caméra.
Oui, c'est ça. Non seulement, donc Treadwell, en fait, c'est le personnage exogien par excellence, quoi.
C'est le personnage parfait.
Oui, on dirait Kinski. Kinski aurait pu jouer le rôle de Treadwell.
Je crois qu'à un moment, il les compare un petit peu. Il dit, moi, là, à sa place, si ça avait été Kinski, on se serait battu, ou je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en effet, il fait le lien aussi, Herzog.
Et cette scène de la tempête sous la tente, elle est incroyable, mais surtout la scène de la mort de Treadwell aussi, une scène cinématographique qui est folle.
Et là aussi, j'ai noté justement une phrase d'Herzog qui dit « Il a saisi des moments improvisés si magnifiques de ceux dont les directeurs de studio et leurs équipes ne sauraient même rêver. » Ça démontre tout ce que vous êtes en train de dire.
On peut peut-être parler justement de la mort de Treadwell en soi, qui n'a pas été filmée parce qu'il y avait un cache dans la caméra, mais qui a été enregistrée. Et ça, c'est incroyable parce que le son fait encore plus peur que l'image au cinéma, c'est bien connu, le moindre son peut nous titiller. D'ailleurs, je connais quelqu'un avec qui je vais au cinéma qui se bouffe les oreilles devant des films d'horreur pour ne plus avoir peur. Et là, donc, il y a une scène de 10 minutes où on ne sait pas si Herzog va nous faire écouter ou pas le bruit de la mort de Treadwell. Et on est un peu en retrait, on se braque un peu face au film, parce qu'on se dit, non, je ne veux pas entendre la mort de Treadwell. Mais il y a quand même ce côté un peu pervers du spectateur qui se dit, peut-être que... Enfin, on a enfin envie de ne pas du tout le voir, et de se dire de peut-être voir, entendre cette mort, plutôt. Je dis voir, mais c'est seulement entendre. Et là, Herzog, qui n'apparaît pas du tout devant la caméra pendant tout le film, on l'entend, on arrête le film, mais on ne le voit pas. Et là, je crois que c'est la seule fois du film où on voit Herzog, mais de dos. Alors d'habitude, il est de face. Le premier film dans lequel il apparaît, le premier documentaire dans lequel il se met en scène, ça s'appelle L'énigme du sculpteur de bois, qui est l'histoire d'un sauteur à ski qui est très fort. Et Herzog se présente vraiment comme un speaker, quoi, comme une speakerine. Il parle face à la caméra avec un micro, il commande les sauts à ski, etc. Ce qu'il a fait beaucoup dans d'autres documentaires, mais ce qu'il ne fait pas ici. Mais là, la seule fois on le voit, c'est de dos, avec un casque sur les oreilles, face à une amie proche de Treadwell.
Son ex-copine.
Oui.
C'est l'ex-copine de Timothy Treadwell.
Et on entend écouter cette bande-son que personne, à part le coroner, je ne sais plus comment on dit, que le coroner a écouté.
Ouais, c'est un légiste. Ouais.
Et
elle, son ex-copine, ne l'a pas écouté. Et regarde Herzog l'écouter.
C'est ça, donc il y a une sorte de mise en abîme folle où tout le monde regarde Herzog en train d'écouter quelque chose sans l'entendre. Et là, Herzog, c'est une des seules fois, peut-être, de tous ses films, on le voit craquer, mais de dos, parce qu'on ne peut pas voir Herzog pleurer. Et on le voit vraiment, on entend un peu sa voix qui se brise, il dit de suite, détruisez la cassette.
N'écoutez jamais ça.
Et il n'écoute même pas jusqu'au bout, à un moment, il lui dit, appuyez sur stop.
Mais et ça rend le truc encore plus choquant, parce qu'on s'imagine au fur et à mesure.
Mais justement, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le montage, juste après cette scène, vient la scène de combat entre deux grizzlies, où là, on voit toute la puissance que cet animal a. Et donc forcément, en regardant ça juste après, ou justement, quand tu le vois écouter, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans son casque là? Et je crois qu'il y a beaucoup de cynisme dans le montage, parce que juste après, tu t'imagines un humain face à un ours qui se bat, et tu vois qu'il ne tient pas une demi-seconde. Donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de cynisme dans le montage.
Mais aussi juste avant, en fait, il y a le médecin légiste qui lui a écouté et qui est très excité. En fait, moi,
C'est un personnage à part entière aussi.
Et en fait, c'est
peut-être lui le personnage le plus fou du film.
Et c'est accentué, je trouve, même par les angles de caméra qui sont très bizarres.
Et cette scène, elle est d'une violence inouïe, parce qu'en fait, du coup, le mec raconte avec des détails. T'es là, elle criait, on entend le machin, et puis en fait, il
on peut imaginer telle ou telle chose.
Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment le cliché d'un médecin légiste. Et juste après cette scène, qui moi pour moi a été très violente, où je me suis dit, mais le mec est dingue en fait. Il y a cette scène, comme tu disais Nicolas, où elle est, qui est bien plus doux et bien plus profond. En fait, j'ai trouvé que même si le film est une déconstruction, c'est aussi des montagnes russes en fait, parce que des fois, c'est vraiment à la limite du risible, à la limite vraiment de un peu n'importe quoi. Et des fois, il y a quelque chose de très touchant. Sa carrière d'acteur, moi j'ai trouvé que c'était très touchant et en même temps très cynique en fait. Sur toutes les parties.
Oui. Sur l'acteur, mais il y a un côté aussi très méta finalement, c'est que c'est un film d'un réalisateur forcément sur un autre réalisateur. Tu le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une des plus belles scènes quand il commence à s'extasier sur les capacités de réalisateur de Timothy Treadwell. C'est-à-dire que c'était un amateur, mais il avait quand même une certaine science du plan. Il y a ce plan incroyable où donc il est forcément. Il y a un grizzly en fond, et puis il y a deux renards qui passent en même temps dans le plan, deux renards avec lesquels. Qui se sont habitués à la présence de Timothy Treadwell, donc il a dû leur donner à manger. Donc il y a vraiment des plans fabuleux. Et puis il y a une phrase que j'ai notée aussi, vu que tu notes des phrases, j'en note aussi. Je l'ai
devant
perdu.
Les films d'Herzog, mais, plein de phrases.
Où il y a un moment où Herzog, à propos de Timothy Treadwell, dit que la caméra c'est son seul ami. Et on sent qu'en disant ça, il parle aussi pour lui, parce que je crois que finalement la caméra c'est la vie d'Herzog, il a que ça.
Et je trouve que le rôle de la caméra, justement, comme le seul compagnon de Treadwell, qui devient presque un confessionnal, parce que du coup il parle à la caméra, bah du coup nous on se retrouve à être son seul compagnon aussi à Treadwell, et là, il lui parle, et donc finalement il nous parle aussi indirectement, et c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est ça qui nous aide à nous plonger dans cette folie un peu de Treadwell, c'est le fait qu'il parle sans cesse à cette caméra et que finalement du coup il nous parle à nous comme étant son seul compagnon.
Et le paradoxe, c'est quand tu disais que son seul ami c'est la caméra et que Herzog aussi, c'est que du coup j'écoutais une émission où Herzog disait que il est pas cinéphile. En un an, il peut regarder deux films et ne pas du tout être choqué par ça. Et pour autant, dans Grizzly Man, en fait, il y a quand même une énorme cinéphilie, vraiment un respect de la vidéo. Mais pour autant, en fait, c'est pas vraiment du cinéma ce que fait Treadwell, c'est de la vidéo. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que tout le caractère de Treadwell, c'est assez moderne en fait. C'est du vlog, il filme des choses, le moment où il décortique une merde, enfin, tu sais, vraiment, c'est assez lunaire. Et pourtant, tous les plans sont assez beaux et en fait il y a vraiment un travail d'enquête mais qui est fait aussi sur le sensible. Et en fait c'est, enfin j'ai trouvé que c'était assez dur de la part d'Herzog de dire qu'il n'était pas cinéphile, parce qu'en fait même si il ne va pas au cinéma ou il ne regarde pas des films, il est amateur d'images et ça se voit en fait. Rien que la photo de capture, enfin la photo de couverture du film, c'est un plan qui est magnifiquement préparé en fait. C'est des deux tiers un tiers. Enfin.
Bah, tout simplement, ouais. Herzog il prend un matériel qui n'est que de la vidéo, juste par le montage, il le transforme en cinéma. Il fait ça avec tout le reste de sa filmographie, tous ses documentaires. La plupart de ses documentaires, ça pourrait simplement être des documentaires Arte. Et je veux pas être méprisant en disant ça, mais ça pourrait être des simples documentaires de télé. Et il arrive par le montage, par l'écriture, à rajouter quelque chose par-dessus. Et je propose qu'après une petite pause, on parle du rapport qu'il y a Herzog au documentaire et à la fiction dans ce que ça peut avoir comme notion objective de faire un documentaire. On pense qu'un documentaire, ça va être forcément objectif, donc vrai. Dans une fiction, ça va être faux. Et je pense que ça serait intéressant de voir ce que Herzog fait de ces notions et comment, au final, il s'en fout et il tord tout ça. Et après avoir parlé de Grisy, je propose qu'on passe à un jeu pour un peu reprendre un peu de bonne humeur et ne plus penser à des gens morts dévorés par des grizzlies. On va écouter un générique pour se mettre dans l'ambiance.
Nous allons jouer à un jeu.
Ah, not a chance.
On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Prenez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre. Mais je gagne toujours.
Et donc c'est Victor qui nous a encore une fois préparé un petit jeu. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, pour vous ravir, je vous ai préparé un jeu tout pourri qui s'appelle le littéralement littéral. C'est très simplement, tout est dans le titre, un jeu où j'ai pris des noms de films relativement très connus et je les ai traduits littéralement de l'anglais au français. Sauf que ça commence facilement, même très facilement, vous le verrez. Et il y a trois autres rounds donc, qui vont de la difficulté facile, moyen à difficile. Et je vais noter les points. Et c'est la personne qui arrivera à faire le plus de points remportera absolument rien, à part la gloire d'avoir remporté ce jeu. Ma foi, c'est très bon. Nul.
Et l'admiration de ses pairs.
N'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez commencer dans un ordre précis où on fait un tour normal ? Allez, on fait le tour de chauffe. On va dire que la personne qui... non, on va rien dire du tout, on va juste faire un tour de chauffe. Lucas, tu commences. C'est très facile. Fiction pulpeuse.
Pulp Fiction.
Bravo. C'est très très dur.
Qui est aussi le titre québécois du film.
C'est vrai ?
Oui.
Ah merde.
Affirmatif.
Je me suis trouvé très drôle en l'écrivant, mais non, d'accord. J'aurais pu être traducteur pour les films québécois. Deuxième titre, Louis, rapide et furieux.
Oh. Fast and Furious.
Évidemment.
Qui est peut-être aussi le titre québécois.
Oui. C'est peut-être.
C'est pas rapide et dangereux en québécois.
Ah, peut-être. Oui.
Je crois que c'est une connerie comme ça. Nicolas, Étoile Guerre.
Star Wars.
Bravo.
C'est beau.
Et finalement, Adeline, Apocalypse maintenant.
Apocalypse Now.
Waouh.
Ah oui, d'accord.
Bon, on s'est chauffé l'esprit.
On a compris le principe.
On va pouvoir commencer par le round facile qui s'appelle en sous-titre Aucun Challenge. Lucas, Combat Association.
Ah oui, oui, d'accord.
Fight Club.
Bravo.
Waouh. J'étais pas du tout. Je vais être très nul, je le sens.
Oh, bah. Si vous galérez là-dessus, c'est chaud. Louis, le brillant.
Le magnifique.
Ah non.
Non, Gatsby. Non,
le brillant.
Le brillant.
Ou le scintillant, si tu préfères.
Shining.
Ouais, The Shining.
Ah, d'accord.
Ah oui, c'est...
C'est technique.
C'est littéralement littéral. C'est comme exactement. Le dit le jeu.
Alors, celui-là, il me fait beaucoup rire. Supérieur pistolet.
Supérieur pistolet. Gun. Top Gun.
Ouais.
Oh la vache.
Oh là là.
Ça va être très dur.
Exactement.
Heureusement qu'on est tous bilingues autour de cette table, évidemment.
Et celui-là, il est un peu plus technique, désolé Adeline.
Ah oh, bah super.
Récipient chien.
Réservoir dog.
Tout à fait. On passe au round moyen.
J'aurais proposé Tupperware canin. Ah,
Tupperware canin, c'est pas mal. C'est pas assez littéral. Et puis c'est un peu. Là, tu vois, on arrive dans le moyen, ça va être l'idée. Tu vois,
on sent la littérature qui émane de Louis.
Round moyen, là, c'est intéressant. Et on arrive du coup sur le cas Obturateur Hill.
Ah oui. Ah, ah oui.
Yeah.
Si t'as des notions de photographie en anglais.
peut-être donner un petit indice.
Est-ce qu'on peut, on peut aider?
Un film de Martin Scorsese.
Shutter Island. Ouais, d'accord. Ok. Merci pour l'aide.
Celle-ci, c'est une de mes préférées aussi. Louis, veste en métal complet.
Full metal jacket.
Wow.
Il y a du niveau.
Nicolas, facile. Citoyen Kane.
Citizen Kane.
Lui, ce round est plus facile que celui d'avant.
Ouais. Oh non, quand même. Bon, alors, vous en faites pas, le dernier round, il est très très drôle. Et le vrai homme spectacle.
The Truman Show.
Ouais.
Avec l'accent.
Yes, because I'm fluent in English, you know.
Wow, excusez-moi. Et le round difficile, avec le sous-titre « Tu te fous de notre gueule, en fait ». Celui-là, il est assez facile et je l'aime beaucoup. Perpétuel, soleil brillant, du sans tache esprit.
Eternal sunshine of the spotless mind.
Ok, ça. Tout à fait.
Quel homme.
Gueule balafrée.
Oh.
Louis.
Gueule balafrée.
Ah oui, ok.
Avec Al Pacino.
Bouchez tous les limites. Bouchez tous les limites.
Hein? Scarface?
Ouais. Ah oui, d'accord.
Scarface. Oh là là.
Oui, gueule balafrée. Alors celui-là, j'ai totalement abusé, mais désolé Nicolas. Conducteur de VTC.
Conducteur de VTC.
Ah, c'est facile.
Un autre Scorsese.
Taxi driver.
Ça va être parfait, tout le monde va avoir gagné, c'est super. Oui. Et finalement, le dernier, Sprinter sur l'âme.
Sprinter sur l'âme.
L'âme comme une lame d'épée.
Ah oui, ah. Un film dont on a déjà parlé.
Oui. Ah, oula.
Ouais.
On a déjà parlé de ce film cette année.
Peut-être même dans cette émission.
Sword.
Oui.
De quoi?
Il y a Sword dedans?
Il n'y a pas Sword. Il y a une autre façon de dire l'âme.
Ouais.
Mais pas la chanteuse.
Oui, Sprinter sur...
Un film de Ridley Scott.
Blade Runner.
Exactement. Bravo. Et bien sur ce, je crois que c'est une grande première et je suis très fier de vous l'annoncer. Vous avez tous gagné.
Et ben c'est très
et
beau.
C'est vraiment
ou
rare.
Tous perdus
quand même.
Au choix. C'est à vous de voir.
Merci beaucoup.
Et ben merci Victor. Pour se remettre un peu dans l'ambiance un peu plus sombre d'Herzog, du chaos, de la mort et des grisilles, je propose qu'on écoute un morceau que tu as choisi, Lucas, qui est de Peer Gynt et qui figure dans le film Leçon des ténèbres dont vous avez parlé, Louis, l'année dernière dans une émission, dans l'émission numéro 4.
Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part Mexican. He was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the coyotes howl. They go, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip, woo. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, and the outlaws are gone. Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the lion is gone.
Et donc je me suis totalement trompé, j'ai annoncé un morceau de Peer Gynt, mais c'était le morceau de Don Edwards, Coyotes, qui figure à la fin de Grizzly Man. Ça tombe bien, car Lucas, je crois que tu as quelques petits ajouts sur Grizzly Man.
Non, juste une dernière idée que j'ai pas eu le temps d'exposer, mais que je trouve assez rigolote, pour illustrer le cynisme et l'ironie de toute cette histoire donc de Timothy Treadwell. C'est que, bon, pour quelqu'un qui se croyait ours, et d'ailleurs plusieurs intervenants dans le film disent que Timothy voulait devenir un ours, c'est quand même assez ironique de finir dans l'estomac d'un ours. Et je vous fais pas un dessin de ce qui se passe après la digestion d'un ours. C'est que bah, Timothy Treadwell est vraiment devenu matière organique. Il est devenu étron ursidé. C'est littéralement ça. Donc ça, c'est une première chose. Et dans la même idée, il restait quand même une partie de son corps. Donc on en a fait des cendres. Et vous avez remarqué qu'à un moment, on jette les cendres dans la nature. Donc il est là où on grandit les ours. Et surtout, ces cendres étaient conservées avec des poils d'un grizzly. Donc je crois qu'il y a plusieurs éléments là qui ont plu à Herzog dans sa manière de montrer tout ce chaos, toute cette ironie de la vie et ce cynisme ambiant. Voilà, je tenais à rajouter cette idée qui me plaît bien.
Mais pour enchaîner sur le documentaire, c'est que on a beaucoup reproché, enfin les critiques ont beaucoup reproché Herzog de pas forcément être objectif dans son, dans ses documentaires. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'être objectif dans un documentaire? Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on a le droit de mentir dans un documentaire, selon vous?
Bien sûr, parce qu'un documentariste n'est pas un journaliste. C'est quelqu'un qui... En fait, c'est un réalisateur de fiction, mais qui se sert de la réalité, qu'il modèle comme de la pâte à modeler, pour faire passer une idée. Alors, évidemment, un documentaire, de son nom, ça doit documenter. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je pense que, en fait, ce qu'un documentariste doit documenter, justement, c'est l'idée qu'il a derrière la tête, et pas forcément la réalité. Mais, je sais pas si je suis clair, mais...
Justement, lui, il dit qu'il hait le cinéma vérité, et que pour lui, la seule vérité qu'il cherche au cinéma, elle est d'ordre poétique. C'est ce qu'il dit, donc je pense que ça rejoint ce que tu dis, Lucas. Et en fait, il aime, enfin, moi, c'est ce que je ressens, il aime créer la confusion entre le réel et la fiction, que ce soit dans ses documentaires, dans lesquels, justement, il intervient parfois de façon très particulière, vraiment, il intervient, même, on peut dire. Donc, ces docus sont délibérément inventifs, et même dans ses fictions, qui ont une partie très documentaire aussi, je trouve. Quand on regarde un Fitzcarraldo, quand on regarde Aguirre, quand on regarde même Nosferatu, où finalement il va filmer le personnage dans les Carpates et dans les plaies. Je trouve qu'il y a une vraie confusion chez Herzog entre fiction et réel.
Je ne sais plus quel cinéaste disait ça, mais c'est vrai que chaque film, je crois que c'est une légendaire aphorie de Godard, car c'est toujours lui qui est derrière la moitié des citations sur le cinéma, et que chaque film, chaque film de fiction, est un documentaire sur son propre tournage. Et on peut dire qu'avec Herzog, c'est vrai, parce que tous ces documentaires, toutes ces fictions parlent du tournage du film, et souvent Fitzcarraldo comme Aguirre sont plus rentrés dans la légende et dans l'histoire du cinéma pour leur tournage que pour le film en lui-même, ce qui est un peu dommage. Et moi, j'ai une petite anecdote avec Werner Herzog, car je sais que nos auditeurs raffolent les anecdotes. L'autre fois, c'était l'anecdote sur Dupieux, évidemment, qui est très connue maintenant. Mais Herzog, j'avais vu une masterclass de lui à la quinzaine des réalisateurs, donc en 2017, je crois, oui, 2017, où il parlait de son parcours, il était interviewé, etc. Pour la petite anecdote sur le côté, j'avais essayé de prendre une photo avec lui, il y avait une petite file de selfie, et juste quand c'était à moi, l'attaché de presse est venu dire à Herzog, ah non, c'est fini maintenant. Donc on aurait pu vivre dans une réalité où j'avais une photo avec Werner Herzog, ce qui me déçoit un peu. Mais bref, au début de la masterclass, il a affiché une citation de Kant qu'il avait mis au début d'un de ses documentaires. Il nous disait, vous voyez cette citation, elle n'est pas du tout vraie, c'est moi qui l'ai inventée. J'ai mis Kant parce que ça sonne bien, mais la vérité n'a aucune importance en fait. Et à partir de là, je me suis rendu compte que Herzog, en fait, dans ses films, on ne peut pas dire qu'il mente forcément, mais il enjolive la vérité. Et ça, je l'ai retrouvé dans, je pense, tous les documentaires que j'ai pu voir de lui. Où il y a dans The White Diamond, qui est un film que je connaissais pas du tout, que j'avais vu par hasard sur Mubi, il parle d'un homme qui fait des ballons dirigeables avec de l'hélium, bref, dans la jungle, encore une fois. Et tout le long, il y a cette vérité enjolivée, cette survérité qui est fausse, mais qui parle encore plus de la réalité que s'il disait simplement des banalités. Où il y a une scène, je ne sais pas si tu l'as vu, Louis Funès, tu as eu le temps de voir The White Diamond. Il y a une scène où d'un coup il interview un gars qui vit là-bas, qui les aide, qui est un indigène en Guyane, et ce gars va d'un coup réciter un poème et donner le titre au film, et on sait que c'est Herzog qui lui a écrit le texte, ça se voit, et pourtant on a envie de croire que c'est sorti comme ça n'importe où. Tout comme au début d'un film où il filme les gens qui sont à la fois sourds et aveugles, qui est terrible, j'ai oublié,
Le pays du silence,
dans le pays du silence et de l'obscurité,
ouais c'est ça.
Au début, il y a cette femme qui n'entend pas, qui ne voit pas, mais qui sait parler, qui sur le générique raconte qu'elle fait souvent un rêve, qui est le rêve de quelqu'un qui saute à ski et qui commence à voler. Et on sait que c'est Herzog qui lui a soufflé, car c'est littéralement le thème de son précédent documentaire, et c'est des paroles du gars d'avant. Mais pourtant, commencer le documentaire comme ça, ça nous met dessus dans l'ambiance, et ça permet d'encore plus nous donner d'empathie envers les personnages qui filment. Donc je trouve que c'est très beau.
Mais c'est pour ça que, il dit que pour lui, la vérité qu'il cherche au cinéma, elle est d'ordre poétique. C'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. Et il y a aussi, je trouve, puisqu'on parle justement des interventions un petit peu pour falsifier, enfin pas falsifier, mais des interventions d'Herzog dans ses documentaires, c'est aussi la façon dont il mène ses entretiens, qui est une façon très particulière, je trouve. Et ça m'a encore plus sauté aux yeux dans Into the Abyss, où en fait on suit les derniers jours d'un condamné à mort. Et en fait, il mène toute une série d'entretiens, que ce soit donc justement avec ce condamné à mort, avec un autre condamné à mort, parce qu'ils étaient deux au moment des faits, du père de l'un d'eux, d'un ex-bourreau, etc. Et en fait, il se permet de donner son avis, parfois en plein milieu d'une réponse d'un des témoins. Et finalement, ça permet pour lui de mettre en lumière, là, en tout cas dans ce documentaire-là, les absurdités de la peine de mort, mais ça m'avait vraiment fait tiquer le fait d'entendre d'un coup comme ça le réalisateur intervenir en plein milieu d'une réponse et donner son avis sur la réponse qui est en train d'être donnée, complètement couper l'intervenant.
Et ça permet de dédramatiser des fois. Je pense à Fireball, qui est pareil, un film dont j'avais jamais entendu parler, qui est sorti seulement sur Apple TV et que j'ai pu voir, qui est sorti en 2020, qui est un documentaire sur les météorites. Voilà, parce que donc oui, il a dû s'intéresser aux météorites, s'est dit, je vais faire un documentaire sur les météorites. Où c'est marrant, parce qu'il co-réalise le film avec la personne dont j'ai oublié le nom là tout de suite, avec qui il a fait Into the Inferno, qui était sur les volcans. Là, il parle de météorites. Et pendant tout le long, je me dis, c'est bizarre, on n'a toujours pas entendu Herzog, on dirait presque qu'il n'est pas sur le tournage. Et bon, je me laissais un peu porter par le documentaire. Et à un moment, il y a une spécialiste des météorites qui explique que oui, nous sommes tous poussière d'étoiles face à l'univers, etc. Donc c'est une grande citation sur la vie, ça remet en perspective le spectateur et tout. Et d'un coup, on entend la voix d'Herzog qui dit, à ce moment-là, avec son accent allemand que je n'imiterai pas, à ce moment-là, je me suis permis d'intervenir. Et d'un coup, on l'entend dire, je ne suis pas poussière d'étoiles, je suis enfant de Bavière. Et donc là, son intervention, non seulement fait plaisir au spectateur qui entend enfin la voix d'Herzog, et surtout, bah oui, ça dédramatise le moment et ça permet de mettre. Pour un cinéaste qui aborde des thèmes quand même très graves, comme tu le disais au début, Lucas, ça permet toujours d'alléger un peu le sujet, mais du coup de encore plus plaire au spectateur et de continuer un peu à tenir le spectateur par la main pour l'emmener dans son univers.
Non, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis peut-être pas forcément d'accord avec vous. Je suis assez d'accord sur le fait que dans tous les cas, fiction ou documentaire, il a toujours une omniprésence qui est de l'ordre de la documentation. Mais je trouve qu'il a une façon d'agir complètement différente dans ces deux thèmes, et je trouve pas que les deux se rejoignent. Je trouve que, en fait, dans ces documentaires, alors peut-être que j'en ai vu moins que vous et que dans la plupart ça se différencie, mais je trouve qu'en fait il est jamais objectif, mais il ne ment pas pour moi. Parce qu'en fait, il ment pas parce qu'en fait, il se positionne d'un point de vue, comme tu disais, dans le commentaire, en fait. Et donc, dans tous les cas, en fait, il fait pas une distorsion de la réalité parce qu'en fait, c'est sa réalité à lui. Et donc, du coup, ça, c'est pas vraiment du mensonge et c'est pas du reportage non plus. Parce qu'en fait, c'est lui qui donne sa réalité.
C'est de la subjectivité et on en a besoin.
Et en fait, voilà. Et en fait, c'est plus lui qui insuffle ce qu'il voit. Et en fait, dans le montage et dans sa façon de faire, il se positionne jamais comme en détention d'une vérité. Et alors que je trouve que dans la fiction, ce qu'il réalise, en fait, c'est presque une psychanalyse. En fait, c'est juste que, en fait, sa présence, elle est vraiment omniprésente, mais c'est pas du documentaire pour le coup. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup moins subtil, on va dire, en fait, parce qu'en fait, il y a une omniprésence de l'histoire du tournage qui, du coup, est pas de l'ordre du documentaire, mais pour le coup du reportage. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est insufflé, et qui est insufflé aussi parce qu'on sait d'Herzog et parce que ce qu'il dit de lui, et notamment sur la métaphore de Kant, elle est assez connue, en fait, que du coup, il a menti. Et en fait, il y a quelque chose de... c'est plus dans Ennemi intime ou des choses comme ça. En fait, c'est presque de la déconstruction de ce qu'il fait, mais c'est pas du documentaire. En fait, il documentarise pas sa fiction. Il est omniprésent, mais il est omniprésent comme personnage derrière un film, mais qui serait pas de l'ordre du documentaire, en fait, je trouve. Et pour suivre cette logique, je trouve qu'en fait, il se différencie vraiment dans les deux pôles. Et moi, j'ai regardé un documentaire sur Gorbatchev qu'il avait fait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez intéressant parce qu'il s'intéresse à une figure qui est très connue, où tout le monde a un peu son avis dessus. Et il est omniprésent dans ce film. Toutes les interviews, il est à côté. Les plans sont très étranges parce qu'en fait, c'est des plans très éloignés où on voit la traductrice, les aides pour le documentaire, enfin les assistants, etc. Et c'est vrai que ça permet de donner une déconstruction à ce qu'il fait. Et ce que je trouve que dans la fiction, c'est peut-être un peu plus pervers, c'est qu'il a une présence qui est insufflée. En tout cas, dans Aguirre et dans Fitzcarraldo, je trouve qu'il est présent, mais d'une façon un peu plus insinueuse et qui ne se fait pas dans le documentaire où c'est assez franc.
Mais je propose qu'on écoute justement une archive d'Herzog qui parle de lui-même. C'était sur le tournage de ce fameux Fitzcarraldo dans le documentaire Burden of Dreams qui a été réalisé par Lee Blanks.
It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are
are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all about. It's as simple as that. And I make films because I have not learned anything else. And I know I can do it to a certain degree. And it is my duty, because this might be the inner chronicle of what we are. And we have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in the field.
Et vous écoutez toujours la séance du dimanche, et on vient d'entendre la très belle voix d'Herzog avec son accent allemand inimitable. Donc évidemment, quand Herzog parle de lui, parle des autres plutôt, il parle toujours de lui, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire. Je crois que Louis, tu veux nous parler d'un grand thème que tu trouves commun aux deux.
Oui, à la fois dans ses fictions et dans ses documentaires. En fait, on a souvent pensé qu'Herzog pouvait être fou. Parce que c'est vrai, là, on a parlé, par exemple, de ces anecdotes de tournage qui sont parfois complètement folles. Les endroits où il va filmer dans ses documentaires. Et en fait, moi, je pense qu'il n'est pas si fou. Et ce qui l'intéresse surtout, et le grand thème vraiment pour moi qui transcende toute sa filmographie, c'est de comprendre les gens et de comprendre leur quête. À un moment, pour appuyer ça, dans Into the Inferno, justement, il va filmer des volcans, parfois presque, enfin, en activité, en fait. Et le volcanologue avec qui il est lui dit « Tu n'as pas cherché à ce qu'on aille à quelques mètres de la lave, tu as cherché à comprendre notre métier, ce qui nous anime. Et je sais que tu prends toutes les précautions sur un tournage, tu ne serais pas là autrement, tu aurais été anéanti par une coulée de lave, une torchère, un grizzly ou autre chose. Et finalement, je pense qu'il a bien cerné, et c'est pour ça qu'il a co-réalisé avec lui deux documentaires, il a bien cerné Herzog. Ce qui l'intéresse, c'est pas de se mettre en danger, c'est vraiment, même en allant à la limite, de comprendre les gens, de comprendre leur quête, que ce soit dans Happy People, où il va essayer de savoir un petit peu quelles sont les traditions un peu ancestrales, comment vivent les habitants au fin fond de la taïga, dans Into the Abyss, comme je l'ai dit, c'est un homme qui est condamné à mort, qui vit ses derniers jours, comment est-ce qu'il les vit ? Dans La Soufrière, en fait, quand il va là-bas, alors qu'un volcan menaçait d'entrer en éruption, ce qui l'intriguait et ce qui l'intéressait, c'était pas tant ça que de trouver un seul homme sur 75 000 qui avait refusé l'évacuation et qui voulait absolument rester sur cette île. Un dernier exemple, c'est l'alpiniste dans La Montagne Lumineuse. Il va pas chercher à savoir ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait en fait, c'est qu'il gravit deux sommets de 8000 mètres l'un après l'autre, c'est complètement fou. Et ce qui va l'intéresser justement, c'est sa quête. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il va essayer de creuser la personne. Et c'est pareil, bah oui, dans ses, je trouve, dans ses fictions également. Et c'est pour ça qu'il fait des documentaires même sur la foi, sur la superstition des gens. Même son documentaire Into the Inferno, c'est aussi de comprendre chez les autochtones, tout ce qui va être de l'ordre des rites, des rituels autour des volcans en éruption, comment est-ce qu'ils vont prendre ça comme quelque chose de mystique. En fait, je crois que Herzog, et en tout cas, si je retiens quelque chose de sa filmographie, c'est vraiment qu'il essaye de comprendre, ouais, encore une fois, les gens, leur quête. Et j'ai une phrase que j'adore d'Herzog qui dit « Je descendrai en enfer et j'arracherai un film aux mains du diable si c'est nécessaire. » Et finalement, là, ce que je retiens, c'est moins le fait qu'il puisse aller arracher un film aux mains du diable que la figure du diable, parce qu'en fait la figure du diable, encore une fois, c'est la foi, la superstition, et s'il voulait se mettre en danger et repousser sans cesse ses limites, c'est encore une fois pour comprendre quelque chose de mystique, quelque chose qui dépasse, qui transcende l'être humain. Je sais pas si vous avez ressenti ça en voyant les films, que ce soit documentaire ou fiction d'Herzog, mais pour moi c'est quelque chose qui est très très prégnant.
Je pense que t'as mis vraiment des mots sur ce qui rend Herzog passionnant, c'est que du coup dans ce questionnement perpétuel qu'il a, on sait jamais où un film va nous mener, que ce soit la fiction ou le documentaire. Dans Bad Lieutenant, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir si. Bad Lieutenant, mais on va en parler. C'est une fiction, mais on sait vraiment jamais où ça va nous mener. C'est incroyable, c'est un de mes films préférés d'Herzog. Ou même, il y a un film qui s'appelle La Grotte des Rêves Perdus, qui est un documentaire sur la grotte de Chauvet, qui a décidé de filmer en 3D dans la grotte elle-même, pas une reproduction. C'est un documentaire fou. Et au lieu que ça parle seulement du sujet, ça finit. Herzog finit le documentaire en allant filmer des crocodiles albinos qui vivent dans une serre alimentée par les eaux d'une centrale nucléaire. Ça n'a aucun sens. Mais pourtant, c'est juste que Herzog est tellement curieux qu'il est obligé de toujours se questionner, de toujours aller voir des gens ou des animaux différents. Et du premier au dernier plan, c'est incroyable. Lucas, je crois que tu voulais ajouter.
Non, c'est intéressant cette idée qu'on ne sait jamais trop où on va aller. Et même sur un documentaire qui peut paraître aussi didactique que La Soufrière, qui est donc, je ne sais pas si on en a déjà parlé pour l'instant, mais ce documentaire où en 76, t'as La Soufrière, qui est ce volcan en Guadeloupe, qui va rentrer en éruption. Tous les spécialistes le disent. Et Werner Herzog y va. C'est pour ça que je pense qu'il est quand même un peu timbré, ce mec.
Un peu fou, mais dans son pas style. Pour rien.
Non, bien sûr. Alors que Kinski est peut-être un peu fou et pour rien. Mais bon, après la folie, bon, c'est pas très scientifique comme terme, on va dire qu'il perd la raison. Et mais je suis d'accord avec toi, il est tellement obsédé qu'il va au bout des choses et c'est ce qui peut lui donner un côté un peu timbré. Et donc, pour revenir sur La Soufrière, ça part comme un truc vraiment très didactique où il explique comment un volcan entre en éruption. Il raconte donc l'histoire de cette ville, je sais plus comment ça s'appelle, mais où tout le monde part et où lui vient justement.
Basse-Terre.
Ouais, c'est ça. Et en fait, à un moment, il rencontre quelqu'un, peut-être un sans domicile fixe, je sais plus exactement, mais il y a quelque chose de très mystique. C'est quelqu'un qui reste là, donc un natif de cette ville et bon, il sait qu'a priori il va mourir, quoi. Il reste face à ce volcan qui va bientôt rentrer en éruption. Et ils parlent comme ça, ils échangent. Je sais plus exactement ce qu'ils se disent, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais c'est une rencontre incroyable, très mystique, très étrange, très calme, en fait, malgré le contexte. Et finalement, ce volcan n'explose jamais. Et ça rend cette rencontre encore plus belle. Ça n'a aucun sens. Je sais pas. Et là, pour le coup, le thème de l'homme face à la nature est ultra présent. C'est deux hommes qui font face au danger imminent de la nature, au chaos le plus représentatif que la Terre puisse créer, qui est l'explosion d'un volcan. Et ils font face à ça et sans aucun pouvoir, juste bon, bah, si ça explose, tant pis. Et puis...
Mais c'est vrai que ouais, en effet, on peut aussi résumer un petit peu la filmographie d'Herzog comme l'homme face à la nature ou les hommes et la nature. Je pense encore une fois à Happy People. Où il va filmer des gens au fin fond de la taïga, voir comment ils vivent. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il filme à la fois la vie des gens et la nature au rythme des saisons, dans le même rythme, les deux. Et bon, au-delà de ça, il filme, je trouve, moi, les gestes d'une façon absolument fascinante. Il a un vrai talent pour ça. Et il filme des spectacles naturels aussi absolument magnifiques. Et je trouve qu'il a une façon de filmer la nature qui est magnifique.
Mais pour La Soufrière, justement, il racontait que quand ils sont arrivés du coup à Basse-Terre en Guadeloupe, les serpents avaient quitté du coup la terre et en fait s'étaient réfugiés dans l'eau, sauf qu'un serpent ne vit pas dans l'eau, et donc du coup toutes les plages étaient pleines de serpents morts. Et en fait, il disait que dans ce contexte où les animaux fuyaient cette terre, l'humain et donc lui avait voulu y aller. Et qu'en fait, c'est ça, peut-être un peu aussi pour revenir sur Grizzly Man, aussi la grande différence avec Herzog, c'est qu'en fait, il pense que les animaux n'ont pas d'âme, ils ont un rapport rationnel, et qu'en fait, ce qui rend l'homme exceptionnel, et en fait, c'est complètement, enfin, c'est l'étrangeté, en fait, de l'être et de l'âme qui le pousse à aller à La Soufrière, et que La Soufrière n'explose pas, en fait, qui est vraiment quelque chose de hasardeux, et toute la vie de Herzog est aussi hasardeuse comme ça. Le fait il y a la grande légende du fait qu'il est parti de Bavière pour aller à Paris à pied.
Alors oui, j'ai lu ce livre, ce qui est Le Chemin des Glaces, qui est un petit livre de 100 pages, et qui est impressionnant parce que c'est l'histoire de Lotte Eisner, qui est une grande historienne du cinéma allemand, et qui avait fui le régime nazi pour se réfugier à Paris. Et du jour au lendemain, Herzog apprend que son ami est malade, et Herzog, c'est pas quelqu'un qui est religieux. Il a fait quelques films sur la religion, etc. Il a une grande spiritualité, mais il est pas enfermé dans une religion. Et il décide, dans un acte un peu mystique comme ça, de se dire: mon ami ne va pas mourir, et pour le prouver, je vais marcher de Berlin ou de Munich pour rejoindre Paris à pied. Et donc, c'est cet élan qui se donne. Il décide d'avoir cette force de marcher presque sans s'arrêter pour aller jusqu'à Paris, faire des milliers de, je sais plus combien de kilomètres, mais un ou deux milliers de kilomètres. Et dans ce petit livre, il raconte tout cela, et c'est écrit en 73, je crois. Et là, on voit vraiment aussi toutes ses obsessions, son rapport à la nature, etc. Il raconte qu'il marche, et il dit c'est fou le nombre de chiens qu'on voit dans la rue. Il parle, il décrit chaque feuille qui tombe, des villes ravagées de Bavière, des villes ravagées de la frontière entre l'Allemagne et la France. Et il auto-alimente son propre mythe de l'aventurier, parce qu'il... il part juste avec un seul sac, et donc il casse des portes de maisons abandonnées ou de maisons de vacances pour y dormir à l'intérieur et repartir au petit matin. Et à la fin, ce qui est beau, c'est que Herzog, il crée sa propre légende en continu. Parce qu'à la fin, il va voir son ami, qui au final ne mourra que 8 ou 9 ans plus tard. Mm. Et peut-être que pour conclure notre débat sur Herzog, on peut recommander quelques films dont on n'a pas parlé, qui nous ont particulièrement marqué. Moi, j'ai commencé avec Bal-Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans. Bal-Lieutenant, c'est une suite spirituelle, un film qui s'appelle aussi Bal-Lieutenant, qui est par Abel Ferrara avec Hervé Kettel. Qui est un film qui a une certaine réputation qui m'est pas du tout plu quand je l'avais vu. Je comprenais pas trop ça voulait en venir, comme souvent avec Abel Ferrara. Et pourtant, Bal-Lieutenant Escale à la Nouvelle-Orléans, c'est un film avec Nicolas Cage, donc c'est une fiction, qui parle...
Et Eva Mendes.
Drôle
de casting pour Herzog.
Très drôle de casting, mais là c'était une période où il s'est décidé à faire un film, une fiction par an, alors que c'est des gros trucs, quoi, un film de fiction. Et en 5 ans, il a fait 5 films. Et donc ça se passe après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Où Nicolas Cage est un flic un peu corrompu qui tout le long est très bizarre et là on se dit ben évidemment qu'il aime Skinsky, évidemment qu'il aime Cage, Herzog, et là tout le long on voit Nicolas Cage recroqueviller un peu sur lui-même parce qu'il a des problèmes de dos et parcourir un univers vraiment corrompu où il essaie de mener une enquête sans mener une enquête. Il y a des plans mais vraiment incroyables. Donc Louis et Lucas, je sais que vous l'avez vu ce film. Et le plan où Nicolas Cage se rase après ne pas avoir dormi pendant 72 heures en ouvrant une porte pour aller torturer une vieille dame pour lui soutirer les informations, bah à partir de là je me suis dit wow, je ne sais pas où le film va venir mais j'adore ça. Et c'est ça tout le long du film jusqu'à des cadavres qui dansent. Enfin, ça n'a à la fois aucun sens mais c'est un sens parfait.
En fait, j'ai rarement vu un film aussi bien écrit dans l'ironie.
Oui.
Tout à l'heure on parlait de l'ironie dans Grizzly Man, et bah je trouve que Bal-Lieutenant c'est le comble de l'ironie jusqu'à la dernière réplique du film quand ils sont assis à côté d'un aquarium. Je dirais pas la réplique, je veux pas divulgâcher la fin du film, mais c'est le comble de l'ironie, ça ironise tout le film finalement, et on le retrouve cette ironie tout au long du film. Et comme tu le dis, il y a des valeurs de plan, des angles de caméra...
des focus sur des lézards.
Qui en font un petit ovni, et j'ai adoré aussi.
Lucas, toi
oui, j'ai bien aimé aussi, surtout l'interprétation de Nicolas Cage, et notamment ces petits détails qui... À un moment, il cherche un criminel qui est surnommé G, Alas G, et à chaque fois qu'il prononce G, ça le fait marrer, je sais pas pourquoi, et donc quand il est en interrogatoire avec un ami de G, il lui demande « Tu connais G ?» et là, il commence à se marrer un peu, il y a que lui qui rigole, et c'est des petits détails comme ça qui marrent bien aussi la folie. Et il y a aussi cette scène donc avec... où il interpelle, je crois que c'est une prostituée et quelqu'un, et un autre en sortie de boîte, il lui dit t'as de la drogue, et au final, bon, je ne divulgage pas non plus, mais je m'y attendais tellement pas, c'est très bizarre, mais très bien du coup. Et moi sinon, bah, je vais vous recommander le docu dont tu as parlé tout à l'heure, Louis, qui est Ennemi Intime, où Werner Herzog revient sur sa relation avec Klaus Kinski, donc son acteur fétiche, on va dire. Et alors, il y a énormément d'anecdotes de tournage, ça peut paraître comme une accumulation d'anecdotes, mais en fait, il y a un peu plus que ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai adoré, c'est vraiment une quête de sens d'une inimité passionnée, c'est-à-dire qu'ils se détestaient autant qu'ils s'aimaient, je pense, ces deux-là. Ils ont voulu se tuer plein de fois, je crois. Et donc j'ai dit, il y avait plein d'anecdotes, mais il y en a une que j'aime particulièrement, je crois que c'est sur le tournage de Fitzcarraldo. En fait, ils faisaient que de s'embrouiller, mais de manière... ça faisait beaucoup de bruit, quoi. Et en fait, sur le tournage, il y avait donc les indigènes qui, eux, de la forêt amazonienne, qui, eux, en fait, pour régler leurs soucis, sont apparemment très calmes. Ils ne haussent jamais le ton. Et c'est pour ça, quand ils voyaient donc ces deux gars en train de gueuler et de s'insulter, il y a le chef de la tribu qui est venu voir Herzog et qui lui a dit « Si tu veux, on le tue. On tue Klaus Kinski. » Et donc voilà, je trouve que c'est une anecdote parmi tant d'autres. Et on voit aussi dans... On comprend aussi notamment comment ils se sont rencontrés dans une colocation où Kosinski s'amusait à s'enfermer dans la salle de bain et à tout casser.
C'est incroyable, oui. Toi, Louis, je pense que tu as peut-être un remake d'un grand classique allemand à nous recommander.
Exactement. Celui que je recommanderais, j'en ai parlé au tout début, c'est comme ça que j'ai découvert Herzog, c'est Nosferatu, avec un casting de rêve, là encore, Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Gans. Et c'est vrai, c'est un véritable hommage au film de Murnau. Il y a beaucoup de rappels à l'expressionnisme allemand dans ce film. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le parti que prend Herzog, là, avec Nosferatu, c'est de mettre en valeur la solitude et la détresse du vampire. Et moi, il y a une scène qui m'a marqué, qui me marque encore dans ce film, c'est une scène un peu d'apocalypse. Et au milieu sur la place du village, à un moment, il n'y a plus rien, que des animaux comme ça qui errent. Et à un moment, les habitants arrivent et dans une sorte de folie, se mettent à danser et à tourner en rond.
Et cette scène d'apocalypse au milieu d'un village me marque encore. Et si je peux recommander un documentaire à côté de cette fiction, c'est celui dont j'ai parlé déjà 2-3 fois, c'est Happy People. Donc c'est Jean dans la taïga dont il va filmer les traditions ancestrales, comment est-ce qu'ils vivent au rythme des saisons. Il filme des spectacles naturels absolument magnifiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il filme le geste de ces gens qui sont quasiment tous des artisans de façon fascinante. Donc je pourrais recommander voilà, cette fiction et ce documentaire.
Bah, tu parles de recommander, bah, je pense que c'est l'heure de passer aux recommandations. Est-ce que vous avez eu des films ou des livres qui vous ont marqué ces derniers temps, ou peut-être en rapport ou pas avec le sujet ?
Ouais, bah, moi pour une fois je vais m'écarter un peu du cinéma, mais pour vite y revenir, puisqu'en ce moment je relis du Louis-Ferdinand Céline, qui est donc cet immense écrivain français du XXe siècle, et qui bon, est mort il y a longtemps, dans les années 60 je crois. Mais qui refait récemment l'actualité parce qu'on a retrouvé 6000 pages inédites qu'il avait pu mettre sur papier dans les années 30, en fait, avant qu'il fuit la France pour les raisons de collaboration. Et donc, on a retrouvé ces 6000 pages au terme d'une histoire assez folle que je vous invite à aller lire. Et donc, moi, j'adore ce mec parce qu'un style... Enfin, j'adore cet écrivain, parce qu'il a un style vraiment inouï, et notamment donc, dans son plus connu « Voyage au bout de la nuit ». Et pour revenir au cinéma, j'ai été étonné, en fait, personne n'a osé adapter au cinéma cet immense livre qui est Voyage au bout de la nuit. Et je les comprends parce que, enfin, je comprends personne, puisque personne l'a fait, mais parce que ça paraît tellement difficile à adapter au cinéma, mais pourtant, il y a quand même quelques grands réalisateurs qui ont voulu s'y frotter, notamment Michel Audiard, Jean-Luc Godard, Abel Gance et surtout Sergio Leone. Ça aurait quand même eu une certaine gueule, je pense. Donc voilà, j'attends toujours celui qui osera se frotter à ce livre, qui vous l'aurez compris, que vous l'aurez compris, je recommande. Et pourquoi pas Herzog, d'ailleurs, parce que, bon, évidemment, il est trop vieux, je pense, pour se lancer dans un tel projet, parce que ce serait faramineux. Mais parce que je pense que l'homme, Louis Ferdinand Céline, présente des traits assez similaire au personnage herzogien, et notamment tout son accès de folie et de rage antisémite et raciste qu'il a commencé à nourrir dans les années 30, et toute cette perte de raison et de passage vers la folie qu'on a évoqué tout à l'heure, je pense que ça pourrait faire un film très sympa.
Toi, Louis ?
Toujours pour parler d'Herzog, moi je recommande un peu pour aller plus loin trois livres plus ou moins grands, tous du même éditeur qu'on aime beaucoup ici, Capricci. Le premier, c'est Manuel de survie. C'est une série d'entretiens avec Herzog, des entretiens qui sont vraiment passionnants pour encore mieux comprendre le cinéaste. Ces entretiens, ils sont animés par Hervé Aubron et Emmanuel Burdea, qui ont également écrit le deuxième livre que je conseille, qui s'appelle Herzog pas à pas. C'est une traversée exhaustive dans l'œuvre gigantesque, monumentale d'Herzog. Et enfin, c'est celui que vous m'avez offert autour de cette table, Conquête de l'inutile, écrit là pour le coup par Werner Herzog. C'est un texte purement littéraire, pour le coup, un peu déguisé en sorte de journal de bord ou journal intime. En tout cas, ça en prend la forme, mais c'est clairement juste Herzog qui se laisse complètement écrire. Il dit d'ailleurs lui-même de ce livre, Conquête de l'inutile, « C'est une œuvre de prose, un rêve ou un délire en état de fièvre, comme si pendant que je tournais Fitzcarraldo, j'écrivais de la poésie sur ce que c'est que de vivre dans la jungle. » Donc je vous le recommande, c'est absolument passionnant.
Bah écoute, j'avais noté dans mes recommandations Herzog pas à pas, qui est qui est vraiment une plongée dans l'univers, mais très analytique, écrit pas à quatre mains, du coup. Mais donc je vais recommander d'autres livres, écoute, dont un aussi sur Werner Herzog, qui s'appelle Werner et les catastrophes naturelles. C'est écrit par Laura Friducci, et c'est une biographie de Herzog, mais une biographie qui est comme les documentaires d'Herzog, qui parfois enjolive la vérité un peu, ou prend un peu des chemins de traverse, et où l'autrice raconte vraiment son rapport à Herzog, pourquoi des fois elle ne va plus aimer le cinéma d'Herzog. Elle a du mal par exemple avec le documentaire qui s'appelle La balade du petit soldat, qui est un documentaire tourné avec des enfants soldats au Nicaragua. Faudrait que je relise vraiment les passages du livre où elle en parle, parce que je comprends vraiment pas trop ce qu'elle lui reproche. Mais voilà, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit, et qui permet de se plonger dans la tête d'Herzog en passant par la tête de quelqu'un d'autre. D'autres petits livres vite fait que j'ai envie de recommander, donc un livre qui parle de Steven Soderbergh par Pauline Gage, mais là j'aurai pas le temps d'en parler en détail, donc j'en parlerai lors de la prochaine émission. Il y a le livre Croire aux fauves de Natasha Martin, qui colle vraiment avec l'univers de Grizzly Man, car c'est l'histoire d'une anthropologue française qui est allée dans le Kamchatka, donc au fin fond de la Sibérie, et qui s'est fait croquer le visage par un ours, qui a réussi, elle, à survivre, contrairement à Timothée Treadwell, et qui écrit toute sa relation, non seulement à son corps, car l'ours est parti avec un bout de mâchoire à elle, donc non seulement toutes ses opérations au fin fond de la Russie, ensuite en France, comment elle s'est rétablie de cet événement traumatique. Et ce qui est le grand parallèle avec Treadwell, c'est qu'au fur et à mesure, elle s'imagine en tant que étant devenue ours en partie, et que l'ours est en partie devenue elle. Donc il y a ce rapport assez étrange aux ours, mais qui cette fois-ci est écrit et non pas filmé. Et je pense que c'est un très bon complément au film d'Herzog. Et enfin, dernier petit recours encore en livre, qui est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Car Lucas, tu parlais que tu adorais les films sur les animaux. Et je crois que tu as vu La Panthère des Neiges.
Le documentaire. Tu as vu le documentaire.
C'est ça. Et donc là, c'est pareil, c'est un petit livre, mais qui est passionnant, où vraiment Sylvain Tesson raconte lui aussi son rapport à la nature, à l'attente, et vraiment à des territoires inexplorés qu'il parcourt.
Et le documentaire vient de sortir au cinéma, là, donc si ça vous intéresse. C'est vraiment ça, c'est pas un documentaire animalier, on va voir énormément d'animaux, mais où justement on attend qu'ils se présentent devant la caméra, et c'est ça qui est assez passionnant.
Toi, Doline ?
Et bah, pour la période des fêtes, parce que notre émission va sortir juste avant Noël, je vous conseille de mettre sous le sapin le jeune acteur, la BD de Riyad Satouf, qui est sur Vincent Lacoste. Et j'ai eu la chance d'aller les voir en conférence pour en parler, juste après Les Beaux Gosses. Et je vous invite à, en fait, toute la BD retrace le moment des Beaux Gosses, du coup, où Riyad Satouf rencontre Vincent Lacoste, toutes les jeunes années en fait de Vincent Lacoste, le fait qu'il voulait pas être acteur, que c'est vraiment un peu un travail hasardeux, que Riyad Satouf se prenait pour un Truffaut et qu'il prenait Vincent Lacoste pour son Jean-Pierre Léo. Et c'est assez touchant, il y aura plusieurs tomes. Et vraiment, je vous conseille de l'offrir à vos proches ou de le lire pour vous.
C'est marrant parce qu'il y a aussi là aussi une reprise de Rashomon, puisqu'il y a deux visions, il y a la vision de Riyad Satouf et la vision de Vincent Lacoste de mêmes événements, donc on boucle un peu avec le début de l'émission, et pourtant c'est déjà la fin de l'émission, donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver comme d'habitude tous nos podcasts sur Radio Campus Paris et sur Spotify ainsi que toutes les plateformes de podcasts. Merci à nos auditeurs qui nous ont envoyé des petits screens pour dire que c'était leur podcast préféré de l'année. On les salue.
Petite dédicace à Coralie notamment.
Eh bien, merci Coralie, et rendez-vous à tout le monde le 9 janvier, donc l'année prochaine, pour un épisode sur Devdas. On parlera de cinéma bollywoodien notamment. Merci.
Passez de bonnes fêtes.
One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard, and he'd go.